Nous allons ce soir entrer dans le troisième aspect que j'avais déjà signalé l'année dernière et au début de cette année-ci, le troisième niveau, si vous voulez, de responsabilité éthique. Je reprends pour que vous voyez mieux ce que représente ce troisième aspect. L'éthique est d'abord et en premier lieu cette responsabilité qui naît à partir d'un amour personnel à l'égard d'une autre personne, c'est-à-dire à partir de l'amour d'amitié. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment là où l'éthique prend sa forme première. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y ait pas déjà une certaine responsabilité, ce qu'on appelle ordinairement l'âge de raison, vous savez. À partir de 4 ans, 5 ans, je crois qu'un enfant est déjà capable de dire non à sa mère ou à son père. Et quand il dit non, il manifeste sa responsabilité. Beaucoup plus que quand il dit oui. C'est très curieux, mais c'est comme ça. C'est par la négation qu'on affirme qu'on est autonome. Alors on ne veut pas obéir. Et je crois que quand un gosse dit non, premier moment où il dit non, alors qu'on lui demande de faire quelque chose, il montre bien qu'il y a déjà en lui un certain sens de la responsabilité. Une certaine responsabilité qui naît. Alors vous voyez, si je regarde l'aspect génétique du sens moral, je pourrais dire que l'aspect génétique du sens moral, nous le voyons en premier lieu à partir de la négation à l'égard d'un acte d'autorité. On refuse l'autorité, on dit non. Et par là, on montre son indépendance et sa volonté de s'orienter dans le sens qu'on veut. C'est évidemment très imparfait. Piaget, lui, en psychologue, Piaget dit que l'âge de raison n'existe qu'à partir de 14 ans. Je ne veux pas être méchant, n'est-ce pas ? Mais ça dépend qui l'a fréquenté. Alors, on peut dire, hein, que pour lui, dans ses souvenirs et dans son expérience, c'est à partir de 14 ans. J'avais toujours envie de lui dire, si vous alliez à Paris, vous verriez que c'est avant 14 ans. Parce que je crois qu'à ce moment-là, c'est bien avant 14 ans qu'on a un sens de sa responsabilité. Lui, c'est à partir de 14 ans, c'est à partir du jeu. Le jeu donne un sens de la responsabilité. Je signale ça parce que c'est toujours intéressant de se rappeler que, de fait, si on regarde la réalité, non pas en psychologue, mais telle qu'elle est, on s'aperçoit que c'est bien avant 14 ans qu'un enfant a le sens de sa responsabilité. Et le point de vue moral naît à partir du sens de la responsabilité. Évidemment, c'est encore très embryonnaire pour un enfant. Et c'est pour ça qu'au point de vue philosophique, je ne commence pas par le point de vue embryonnaire, par le point de vue génétique, mais on prend au contraire l'expérience la plus nette où on a le sens de sa responsabilité. Or, je crois que c'est dans l'amour d'amitié, dans le fait qu'on accepte, qu'on choisit un ami, qu'on a le sens d'une responsabilité plénière, parce qu'elle porte non plus sur telle ou telle activité secondaire, mais sur quelque chose qui, pour nous, est très important. L'ami devenant notre bien, notre fin, celui qui donne le sens plénier à notre choix. De sorte qu'il y a un premier niveau de responsabilité, un premier niveau éthique, qui est au niveau de l'amour d'amitié. Ce qu'on peut appeler l'éthique humaine. Je n'aime pas dire l'éthique laïque, vous comprenez bien, parce que le mot laïque n'a pas de signification en soi. Il a une signification anti. Laïque s'oppose à religieux. Laïque s'oppose à chrétien. Mais le mot laïque en soi, non, il faut dire humain. Il faut beaucoup mieux dire cela, l'activité humaine. L'activité humaine, elle se noue autour de l'amour d'amitié. Le second niveau de l'éthique, c'est au niveau religieux. Alors on peut dire qu'il y a une éthique religieuse. L'éthique religieuse, c'est au moment où on découvre qu'il y a en nous une dépendance radicale à l'égard de celui qu'on appelle le Créateur, de celui qu'on appelle Dieu. Et nous avons essayé de comprendre les grandes dimensions de cette éthique religieuse. Cette éthique religieuse qui commence par l'acte d'adoration. Et notez bien, je peux en parler au point de vue purement philosophique. L'attitude religieuse est une attitude humaine purement philosophique. De sorte qu'il faut bien saisir ces deux niveaux. Le philosophe peut par lui-même découvrir le sens des traditions religieuses. Le sens des traditions religieuses n'échappe pas au philosophe. Et tous les grands philosophes de la Grèce n'ont jamais rejeté, sauf exceptionnellement, les sophistes. Et Byron, les critiques. Mais en dehors de là, toute la grande philosophie grecque a accepté les traditions religieuses et ont essayé de comprendre la signification des grandes traditions religieuses et de ce que représentaient les mythes religieux. De sorte qu'au point de vue purement philosophique, sans parler de la foi, sans parler de la révélation, nous pouvons découvrir dans le cœur de l'homme, dans la volonté de l'homme, deux niveaux éthiques. Et je crois que c'est très important de distinguer. Il ne faut pas séparer, hein. Faisons toujours une grande distinction entre la séparation et ce que représente une distinction. Séparer, c'est deux réalités distinctes. Tandis que distinguer, c'est distinguer par rapport à une même réalité qui existe. Je distingue en moi ma tête et mon bras. Je ne les sépare pas. Ça deviendrait dangereux, n'est-ce pas ? Tandis que je les distingue. Je distingue les différents aspects de ma personnalité. Je peux distinguer en moi la possibilité qu'il y a de connaître et d'aimer. Et je ne sépare pas. Mais je distingue. Je distingue en moi ma connaissance sensible et ma connaissance intellectuelle. Je peux distinguer si j'arrive à saisir avec suffisamment de netteté ce qui fait que ma connaissance sensible est une connaissance sensible et que ma connaissance intellectuelle est une connaissance qui peut atteindre l'universel, alors que la connaissance sensible n'atteint jamais l'universel. Donc je peux distinguer, mais je ne sépare pas. Vous savez, ça faisait partie d'un de ces livres de Maritain, « Distinguer pour unir », tandis qu'on ne dit pas « séparer pour unir ». Mais distinguer pour unir, c'est-à-dire distinguer pour mieux comprendre une unité plus profonde dans l'homme Il y a diverses orientations. Je peux distinguer ces diverses orientations, mais je ne les sépare pas. Donc, je peux dire que dans l'homme, il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a deux niveaux éthiques. Le niveau proprement humain au niveau de l'amour d'amitié. Il y a une première éthique qui se noue autour de l'amour d'amitié. Je crois ça très important de bien comprendre cela aujourd'hui. En face de Nietzsche, Nietzsche détruit à boulet rouge la morale kantienne, c'est-à-dire la morale de l'impératif catégorique, la morale du devoir. Et on peut dire que Nietzsche, vraiment, s'oppose, mais violemment, à cette morale du devoir, qui était la morale kantienne, qui n'est pas la morale évangélique, hein, qui n'est pas la morale aristotélicienne ni platonicienne, qui est une morale propre à Kant. Mais il faut bien le dire, Kant a beaucoup marqué son époque et tous ceux qui sont venus après. Je connais encore des professeurs de morale, celui de Fribourg, entre autres, qui est un professeur allemand et qui est tout à fait kantien et qui considère que Kant est quelque chose de très très grand dans l'histoire de l'éthique. Alors que je considère personnellement que Kant a réduit la morale au devoir. La morale va bien plus loin que le devoir, heureusement pour la morale. Parce que si c'est uniquement le devoir, bon, c'est très bien, mais c'est quand même limité. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond au point de vue moral. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, Nietzsche libère le terrain et nous oblige de reprendre quelque chose de beaucoup plus radical, qui est le point de vue de l'amour d'amitié. Une morale ne se fonde pas sur le devoir, mais sur l'amour spirituel. C'est-à-dire le lien que j'ai à l'égard d'un bien qui est capable de me finaliser. Et ça, je crois très important à comprendre cela. Nous pouvons tous le comprendre, je crois, aujourd'hui. Parce que c'est rare que les jeunes soient kantiens. J'en ai pas vu beaucoup de jeunes qui étaient kantiens et qui étaient encore à mettre dans un beau cadre le devoir. Hein. Quelquefois, même, ils ne le mettent pas assez. Mais c'est quelquefois bon de reprendre les choses à leurs racines pour comprendre que le devoir fait partie de la morale. Je ne mets pas le devoir en dehors de la morale. Mais le devoir ne fonde pas la morale. La morale va plus loin que le devoir. Si je me dis je dois faire cela, c'est pour une intention profonde qui est une intention d'amour. C'est à cause de l'amour, parce que j'aime tel bien, j'aime telle personne, que je veux réaliser telle ou telle chose. C'est ce qu'on voit constamment. C'est ces exemples classiques qu'on voit. Je vous en cite un parce que je l'ai devant mon esprit. C'était un garçon extrêmement intelligent, mais parce qu'il était très intelligent et qu'il passait tous ses examens avec une facilité extraordinaire, il ne faisait pas grand-chose dans sa vie. Parce qu'il était trop intelligent, comme vous, ça arrive, ça. Mais le jour où il a commencé d'aimer une jeune fille et qu'il espérait que ça devienne sa fiancée, la première chose que sa future fiancée lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, pas grand-chose, je réussis tout. C'est pas comme ça que ça vit. Hein. Alors, il a commencé à travailler à partir de cet amour qu'il a eu. Pour conquérir davantage le cœur de son époux, de sa future épouse et de sa future fiancée, il s'est mis à travailler. Avant, non. C'est très significatif, hein. C'est que l'amour nous fait travailler, l'amour nous fait comprendre le devoir, mais c'est l'amour, pas autrement. Un homme très intelligent dit, oh, ça va très bien. Alors le dilettantisme de l'homme très intelligent par rapport au devoir, on a tous vu ça, ce dilettantisme extraordinaire, parce que le devoir, très bien, mais bon, j'arrive à faire ça facilement. Donc, on ne s'applique pas, parce qu'on peut faire son devoir sans s'appliquer. Tandis que par l'amour, on s'applique. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la morale dépasse le devoir et touche quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est ce lien d'amour à l'égard d'un bien personnel, qui est une personne que nous aimons. Donc, il y a ce premier niveau moral qui est au niveau de l'amour d'amitié. Le second, c'est la morale religieuse par rapport à Dieu créateur. Et le troisième niveau que nous allons aborder à partir de ce soir, et un peu toutes les autres conférences, les autres cours que vous aurez, seront tous autour de ce problème que nous commençons à voir ce soir. Je pose la question, et c'est important de bien comprendre la question, de nous poser la question si la foi chrétienne donne-t-elle naissance à une nouvelle éthique. C'est une question extrêmement discutée aujourd'hui au niveau des théologiens et au niveau purement philosophique. J'ai parfaitement le droit, vous voyez, comprenez bien comment se pose la question. J'ai parfaitement le droit, si je suis croyant, si je n'étais pas croyant, je ne me poserais pas la question, mais si je suis croyant de foi chrétienne, si je respecte ce qu'est la foi chrétienne, j'ai parfaitement le droit de me poser la question, y a-t-il, à cause de la foi chrétienne, une nouvelle morale? Est-ce que la foi chrétienne est source d'une nouvelle éthique? Des croyants de foi israélite. Je pense ici à Madame Amado, qui a enseigné à Paris et qui est actuellement en Israël. Elle n'a pas hésité d'essayer de comprendre dans sa foi juive, à travers toute l'écriture, quelle était la conception de l'homme au plan philosophique. L'écriture me donne un grand texte, le plus grand des textes qui ait existé, je crois qu'on faut le dire ça. La Bible représente le livre le plus beau, le plus étonnant qui ait existé. Même si je ne suis pas entièrement croyant, vous voyez, je respecte ce document extraordinaire qui a formé des hommes et des hommes. Et je peux très bien regarder la Bible en me disant quelle est la vision de l'homme à travers l'écriture. Et si je suis croyant, je lis la Bible avec un regard nouveau en sachant qu'il y a une révélation, que ce n'est pas seulement une découverte des hommes, mais que c'est Dieu qui est intervenu. Que c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Et qu'à partir d'Abraham, il y a un lien particulier avec Dieu. Et je peux essayer de comprendre si à partir du moment où Abraham a reçu ce message divin, il y a quelque chose de changé dans sa vie. J'avais hésité de prendre avec vous justement l'histoire d'Abraham ce soir. Ça aurait été très intéressant à lire de cette manière-là, parce que c'est très extraordinaire quand vous connaissez un tout petit peu la Genèse et que vous... Il faut lire la Genèse, hein, c'est un des livres les plus étonnants qui soit. C'est un livre très très beau. Eh bien, quand on regarde l'histoire d'Abraham, vous voyez qu'Abraham est en relation avec Dieu et reçoit de Dieu cette parole étonnante, sort de tout ce qui était connaturel. et va vers la terre promise, la terre de Canaan. Abraham doit quitter tout ce que représente la civilisation d'Ur, de la Mésopotamie, et aller vers une terre promise. Autrement dit, le premier fruit de la foi va exiger d'Abraham de quitter toute la culture qu'il a reçue et d'aller vers une terre promise. Une terre inconnue, une terre qui n'est pas la sienne, la terre promise. Et qu'est-ce que je vois dans l'histoire d'Abraham ? Après avoir reçu de Dieu cette révélation, Abraham doit passer en Égypte. Et alors il y a cette petite histoire très très curieuse. Abraham trouve que Sarah est encore très belle et il sait très bien les mœurs du pharaon. Si Abraham dit que Sarah est son épouse, alors à ce moment-là, on va tuer Abraham pour avoir Sarah. Les mœurs du temps. Ça existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? On voit très bien. Alors Abraham dit à Sarah, et pourtant il a la foi. Abraham dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Comme ça on ne me tuera pas. Et alors c'est ce qui se passe. Il dit que c'est sa sœur. Et alors on prend Sarah, parce qu'elle est tellement belle. Une étrangère, hein, vous voyez bien. Et puis elle vient d'un autre pays, donc c'est quelque chose d'étonnant. Un fruit exotique, tout le monde la regarde, n'est-ce pas, avec étonnement. Et alors évidemment, le pharaon veut l'amener dans son harem. Et alors à ce moment-là, on découvre, ça ne va plus du tout. Mais ce qui est très étonnant, moi ça me frappe énormément de voir ça dans l'écriture, hein, que la foi ne transforme pas tout de suite le cœur d'Abraham, il garde ses vieilles habitudes, hein, avec la fidélité, l'égoïsme est là, il faut me sauver. Hein. Alors, peu importe, pour Sarah, elle se débrouillera comme elle peut, n'est-ce pas, mais le tout, c'est quand même qu'on se retrouve après, on se retrouvera d'une façon ou d'une autre. Voyez là, on ne peut pas dire que la foi donne immédiatement une nouvelle éthique. Je ne doute pas de la foi d'Abraham. Abraham a vraiment la foi. Il obéit à Dieu. Mais sa foi ne lui donne pas une nouvelle éthique. Il garde ses mœurs habituelles. Et dans ses mœurs habituelles de ce temps, on voit très bien, on se débrouille, hein, comme on peut. Alors on voit très bien le mélange, hein, du point de vue moral et du point de vue astuce. Personnel, quand on est devant des dangers, il faut avant tout sauver sa peau. Ça, c'est une morale très élémentaire. Hein. On ne regarde pas l'autre, mais on regarde avant tout son propre salut, se garder soi-même sa vie. Ceci nous montre que la foi ne transforme pas directement la volonté humaine. Cependant, si je suis attentif à l'écriture, je vois que progressivement, la foi transforme le cœur de l'homme. La foi, l'espérance et l'amour transforment le cœur de l'homme. Et nous voyons à travers toute l'ancienne alliance, à travers la manière dont Dieu éduque le peuple d'Israël, nous voyons progressivement une nouvelle morale qui apparaît. D'Abraham à Moïse. À Moïse, il est donné les tables de la loi, les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est une morale religieuse dans la lumière de la foi. C'est une morale religieuse, un seul Dieu tu adoreras, et donc c'est l'adoration, et c'est bien une morale religieuse. On montre comment la foi doit nous aider à redécouvrir une morale de justice et une morale religieuse. Et puis si je vais un peu plus loin, je vois que lorsque la foi devient plénière, d'Abraham à Marie, je passe beaucoup d'intermédiaires, hein, mais je le fais exprès, parce que nous n'avons pas le temps de voir tous les intermédiaires. Ce serait très intéressant. Pour bien traiter le sujet de ce soir, il faudrait regarder tous les intermédiaires. Il faudrait regarder les prophètes. Il faudrait regarder Abraham, Moïse, Osée, le Cantique des Cantiques. Alors, on verrait comment, de plus en plus, la foi intériorise l'homme. Et comment le mystère de la grâce, qui se donne par la foi, l'espérance et l'amour, va affiner le cœur de l'homme, va affiner sa volonté. Et comment progressivement, la foi et la charité vont transformer toute la vie de l'homme. Et ceci, nous le voyons en perfection en Marie. Marie est celle qui a une plénitude de foi, d'espérance et d'amour, et sa grâce, son lien avec Dieu, son lien avec Jésus, qui est son Fils et qui est son Dieu, va lui donner une acuité très particulière de finesse, de responsabilité et un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus personnel. Si on regarde le mystère de Marie, on peut dire que en Marie, nous sommes en présence d'une nouvelle éthique. Vatican II, pour bien vous montrer que c'est quand même des soucis actuels de l'Église, n'hésite pas de nous dire qu'avec le mystère de Marie, qui nous est donné comme exemple et comme modèle, nous découvrons une éthique nouvelle, qu'on appellera l'éthique chrétienne. C'est cela que je voudrais montrer avec vous ce soir, en philosophe, hein, comprenez bien. En philosophe, essayez de comprendre comment la grâce ne supprime pas la nature et comment la grâce va au contraire affiner la nature. Alors disons, la grâce permet à la personne humaine d'atteindre ses ultimes exigences. Un vrai chrétien devrait être un homme plus homme que les autres. Un vrai chrétien devrait être un homme qui aille jusqu'au bout des exigences de l'homme. C'est cela que je voudrais que vous compreniez. Comment la foi donne naissance à une nouvelle éthique, c'est-à-dire agrandit le cœur de l'homme, approfondit le cœur de l'homme pour permettre au cœur de l'homme et à l'intelligence de l'homme d'aller jusqu'au bout de ses virtualités, de ses capacités. Comment la grâce, loin de s'opposer, permet au contraire à la personne humaine de se développer pleinement et totalement. Et donc elle donne naissance à une nouvelle éthique. Comprenons ce que sont les caractères de cette nouvelle éthique. Je vous ai dit tout à l'heure, toute éthique repose sur l'amour à l'égard d'un bien, à l'égard d'une personne. La grâce chrétienne me fait comprendre que j'ai une amitié divine avec le Christ, qui est à la fois notre Dieu et notre frère dans l'humanité. La foi chrétienne me lie au Christ d'une manière telle qu'il y a un amour d'amitié avec Jésus. Jésus est celui que je choisis pour être l'ami, pour être le bien-aimé. C'est celui que je choisis, dans ma foi, dans mon espérance et mon amour, et que je considère comme être celui qui donne un sens nouveau à toute ma vie humaine. Toute ma vie humaine prend une nouvelle dimension. Elle est ordonnée au Christ. Et tous les mystères du Christ sont miens, puisqu'il est mon ami. Quand on aime quelqu'un profondément et qu'on le considère comme son ami, tout ce qu'il vit est nôtre. Autrement, ce n'est pas un véritable ami. Et donc, tout ce que Jésus a vécu, nous le considérons comme lié à ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qu'il y a de plus profond à notre cœur, à notre volonté. Nous sommes reliés à lui. On dira, d'une manière métaphorique, que nous sommes les membres du Christ. Ça, c'est le langage de l'Écriture, et c'est un langage métaphorique, symbolique. Nous sommes les membres du Christ, il est la tête. Et donc, il y a entre le Christ et nous un lien tout à fait particulier, un lien analogue, comprenez bien, analogue au lien qui existe dans un corps humain entre la tête et le bras, entre la tête et les pieds. Il y a un lien de vie substantielle. C'est la même vie dans la tête et dans les membres. Entre le Christ et moi, c'est, au point de vue de la foi, c'est la même vie substantielle. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui, humainement parlant, me dépasse complètement. La foi me permet de l'affirmer. Et donc, le mystère de la croix et le mystère de la résurrection, c'est mon mystère. Le Christ me promet un bonheur qui dépasse tous les bonheurs humains. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis, c'est-à-dire aujourd'hui, et cet aujourd'hui, il est toujours actuel, tu vivras de ce que moi-même je vis, puisque le paradis, c'est tout simplement ce que Jésus lui-même vit. Et Jésus donc nous communique librement, volontairement, amoureusement, sa propre vie et son propre bonheur. Nous sommes les héritiers du Christ. Et donc, son bonheur de fils bien-aimé est notre bonheur. Par lui, nous devenons fils bien-aimés du Père, de notre Dieu et de notre Créateur. Nous entrons dans le mystère même de la très sainte Trinité. Et c'est notre mystère. Nous sommes faits pour cela. Donc, s'il y a une nouvelle finalité qui nous est donnée dans la foi, il y a donc nécessairement un nouvel amour. Cet amour qu'on appelle l'amour surnaturel, qu'on appelle l'agapé. Cet amour surnaturel agrandit notre volonté, à une dimension qui est toute nouvelle, qui fait que je suis capable d'aimer à la manière du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, il faut comprendre que cet amour que nous avons pour le Christ va s'étendre vis-à-vis de tous ceux qui sont proches de nous. Et c'est du même amour que nous aimons le Christ et que nous aimons notre prochain. Et là, nous saisissons par le fait même une nouvelle éthique. C'est une éthique de l'amour d'amitié. Au sens le plus fort, nous pouvons regarder le Christ et regarder nos frères avec le même amour. C'est quelque chose d'unique. Dans aucune religion, vous voyez cela. C'est le caractère propre de la religion chrétienne et de la révélation que Jésus nous fait. De faire que, à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ qui est notre Dieu, et à l'égard de ceux qui sont proches de nous, c'est le même amour. Il y a donc, à partir de là, une nouvelle éthique, puisqu'il y a un nouvel amour et une nouvelle responsabilité. Je suis responsable de mes frères d'une manière toute nouvelle, puisque je suis responsable d'eux comme le Christ est responsable d'eux. Ça va infiniment loin, cela. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, et Jésus nous demande de donner notre vie pour sauver ceux qui sont proches de nous. Voilà la nouvelle éthique. C'est une éthique d'amour. Et d'amour divin, c'est-à-dire d'un amour substantiel qui est éternel, qui est au-delà du divers conditionnement. Au point de vue humain, l'amour d'amitié, on le sait très bien, implique le choix particulier que nous faisons spontanément après avoir longuement réfléchi. Nous choisissons tel ou tel ami. Et chaque fois qu'on choisit un ami, on le dit, je te choisis et je te préfère à tous les autres. On le dit après coup, ça, pour bien faire comprendre la qualité de ce choix. Parce que quand vous choisissez quelqu'un, vous le regardez et vous ne faites pas attention aux autres. Mais pour bien faire comprendre la qualité de votre choix, vous dites toujours, je te choisis parce que je t'aime plus que tous les autres. Quand il s'agit de cette nouvelle éthique, le prochain, c'est celui que Dieu a choisi pour nous. Cette fameuse parabole, vous savez, qui nous déroute tout le temps, du bon samaritain, c'est celui-là le prochain. Il n'a pas choisi de rencontrer sur sa route un pauvre infirme, un pauvre blessé, qui était laissé à toutes ses blessures, et qui était seul. Il n'a pas choisi. Le prochain, c'est celui que nous rencontrons sur notre route. C'est celui que Dieu a choisi pour nous. C'est beaucoup plus beau, du reste. Ça va beaucoup plus loin, parce que le choix de Dieu va beaucoup plus loin. Et nous reconnaissons progressivement que Dieu l'a choisi pour nous. Notre prochain, c'est donc celui que nous choisissons dans l'amour réel et profond, puisque nous sommes capables de donner notre vie pour lui, nous le choisissons vraiment, mais dans le regard de Dieu. Alors on peut dire, voyez, et c'est, je crois, la première chose qu'on doit dire, que la foi me lie à une source nouvelle de vie. Puisque la foi me lie à une nouvelle source de vie, à une nouvelle source de lumière et d'amour. Puisque la foi me lie à cette source de vie, je suis agrandi par le mystère de la grâce chrétienne. Et je suis agrandi aux dimensions du cœur du Christ, aux dimensions de l'intelligence du Christ, aux dimensions de la personne même du Christ. Et je suis agrandi à sa dimension par le fait même j'ai un nouveau regard sur ce qu'est ma finalité, mon bien, et un nouveau regard sur le prochain, et un nouveau regard sur moi-même. Je dois m'aimer comme le Christ m'aime. Or, il a donné sa vie par amour pour moi. Et je dois m'aimer du même amour. Et donc, il y a toute une éthique religieuse, une éthique par rapport au prochain, une éthique par rapport à moi-même, qui a une nouvelle dimension. Je crois ceci facile à comprendre dès qu'on fait appel au mystère de la foi, de l'espérance et de la charité. Dès que nous comprenons que notre vie chrétienne nous lie au Christ. Second aspect. Cette éthique nouvelle va s'exprimer à travers les béatitudes évangéliques. C'est la nouvelle éthique. Les béatitudes évangéliques, vous les connaissez bien. Je vais simplement vous les rappeler, parce que c'est important de bien les comprendre par rapport à cette éthique nouvelle. Et alors, là, il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Cette éthique nouvelle, c'est celle de l'Esprit-Saint en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous apprend à aimer. Et c'est les sept dons du Saint-Esprit qui agrandit notre cœur à la dimension même de l'Esprit Saint. Alors je vous écris les sept dons du Saint-Esprit pour comprendre les sept dimensions de cette éthique. Don de sagesse. Don d'intelligence, don de science, don de conseil, don de force, don de piété, don de crainte. Voilà les sept dons du Saint-Esprit. Si on avait le temps, on verrait comment ces sept dons du Saint-Esprit commandent toutes les béatitudes évangéliques. Le don de sagesse, bienheureux les pacifiques, les faiseurs de paix. Le don d'intelligence, bienheureux les cœurs purs. Le don de science, bienheureux ceux qui pleurent. À première vue, on ne voit pas toujours. Hein, croyez-moi, il y a des liens très secrets. Bienheureux ceux qui pleurent. Le don de conseil, bienheureux les doux. Le don de... Alors, les pleurs. Bienheureux les dons de conseil, bienheureux les doux. Le don de force, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est la soif de la justice. Le don de piété, bienheureux les miséricordieux. Et le don de crainte, bienheureux les pauvres. Voilà une éthique toute différente de l'éthique que nous avons vue jusque maintenant, mais qui n'est pas en contradiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui est tout simplement une super éthique. C'est l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur et qui épanouit notre cœur à une dimension qui est la dimension du cœur du Christ. Alors, pour bien comprendre comment cette éthique s'épanouit, les faiseurs de paix, la sagesse, les cœurs purs, bienheureux ceux qui pleurent, il faudrait expliquer là, il faudrait voir comment ces sept dons viennent s'enraciner dans les sept dimensions de l'anthropologie humaine. Si j'étudie profondément ce qu'est l'homme, au point de vue philosophique, je vois qu'il y a dans l'homme sept dimensions, indépendamment des sept dons du Saint-Esprit, hein, vous voyez bien. Il y a sept dimensions, et ces sept dimensions sont comme des attentes des dons du Saint-Esprit. C'est ça qui est très étonnant, et c'est ça qui est très beau, parce que ça nous fait comprendre comment l'éthique, la morale naturelle, humaine, la morale religieuse, sont en réalité profondément une attente de la morale chrétienne. La morale humaine, elle est insatisfaisante. La morale religieuse, elle ne va pas jusqu'au bout. Seule l'éthique chrétienne va jusqu'au bout. C'est pour ça que je dis, l'homme est en attente des sept dons du Saint-Esprit. En réalité, et profondément. Si vous essayez de comprendre les sept grandes dimensions de l'homme, vous voyez qu'il y a sept pierres d'attente. Alors évidemment, pour découvrir les sept dimensions, c'est toute la philosophie. Hein. Je peux vous les rappeler rapidement, si vous voulez, si ça vous intéresse. On peut voir ces sept dimensions, c'est vaste. Hein. C'est toute la philosophie qui aboutit à ces sept dimensions d'une anthropologie humaine. C'est très beau, c'est assez étonnant de voir ça, parce que ça fait comprendre des correspondances profondes entre l'homme créé à l'image de Dieu. Et puis, l'homme parfait qui est Dieu. Et c'est le Christ. On comprend très bien que l'homme, de fait, en lui-même, c'est une de ces paroles que le pape ne cesse de dire, en disant, l'homme, il demande de se dépasser. L'homme, il ne peut pas s'achever en lui-même. Eh bien, c'est cette dimension de l'homme demande d'être dépassée. Elle demande d'aller plus loin, demande d'aller plus profondément. Eh bien, vous voyez, il y a une dimension dans l'homme. Hein. Il y a la dimension proprement religieuse de la vie. Alors, bienheureux du Pacifique. La dimension de la personne, le don d'intelligence. Alors, la dimension aussi, on peut prendre la dimension dernière, le point de vue du corps. La dimension de l'âme spirituelle, je vous donne ça rapidement. La dimension de l'homme relatif à l'autre homme, à un autre, capable de faire ses liens. Et la dimension de l'homme au niveau proprement amour d'amitié et l'homme capable de transformer l'univers aussi en puissance. Créativité. Vous avez sept dimensions. Ça, je vous dis, c'est très important de saisir. Je ne le fais pas trop ici, parce que ça irait beaucoup trop loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une correspondance profonde entre les dons du Saint-Esprit et les béatitudes, et puis les sept dimensions de l'homme. Voilà, première chose que cette éthique nouvelle, l'éthique chrétienne, nous donne. L'éthique des béatitudes. Et je crois que c'est ça qu'on doit comprendre. L'éthique des béatitudes. Deuxièmement, cette éthique chrétienne va nous faire comprendre qu'il y a en nous quelque chose qui lutte constamment contre notre capacité d'aimer. L'éthique chrétienne, donc dans la lumière de la foi, nous fait comprendre comment l'homme est capable de se détourner de Dieu. Comment l'homme est capable de pécher. C'est dans l'éthique chrétienne que je comprends le mieux ce que représente la rupture que l'homme est capable de faire à l'égard de Dieu. Comment l'homme est capable, étant donné sa liberté, de se replier sur lui-même et de comprendre que l'homme, de fait, est né dans un état d'opposition vis-à-vis de Dieu. C'est l'éthique chrétienne qui me fait comprendre ce que représente, ce qu'on appelle d'une façon habituelle, l'état de pécheur dans lequel je suis. L'état, les conséquences du péché originel. Et donc de comprendre les trois concupiscences qui sont en moi. Cette éthique nouvelle me fait comprendre qu'il y a en moi à la fois une capacité merveilleuse de rejoindre le Christ et d'aimer comme lui, et qu'il y a en moi des possibilités de trahison, de complicité, à l'égard de celui que j'appelle l'adversaire du Christ. Celui que j'appelle Lucifer. Celui que j'appelle Satan. Au point de vue purement philosophique, hein, je ne peux pas parler de Satan. Je ne parle que du mal. Tandis que, dans une attitude de foi, je peux comprendre que le point de vue de l'homme se développe toujours dans la lutte contre le démon, celui qu'on appelle l'ange déchu. Autrement dit, je découvre dans la perspective de foi que l'homme est le lieu des grandes luttes. Les luttes les plus grandes qui soient, puisqu'il est capable de s'élever jusqu'à Dieu dans un amour d'amitié et dans un amour de contemplation, être un pacifique, mais qu'il est capable aussi de tourner le dos à Dieu dans un ordre. Et ça, c'est le propre de la morale chrétienne. C'est le propre de l'éthique chrétienne.
de découvrir cette lutte entre l'amour et le non-amour, l'orgueil. Et de découvrir que dans l'homme, il y a au plus intime de l'homme ce lieu de lutte. Ce que je ne peux pas dire au niveau purement éthique humain. Autrement dit, grâce à la foi, l'espérance et l'amour, je découvre une profondeur dans la volonté et dans l'intelligence de l'homme que je ne pouvais pas découvrir d'un point de vue purement philosophique. Je découvre que l'homme est fait pour Dieu. Pas seulement respecté, mais qu'il est fait pour Dieu. Et que sa finalité la plus profonde, l'appétit le plus profond de son cœur, demande de s'achever en Dieu. Chaque homme s'achève en Dieu. Et chaque homme est de cette manière le complément du mystère de Dieu. Puisqu'il achève. Et Dieu prend chacun pour être son achèvement. Donc on découvre la grandeur et la dignité de l'homme. Il est comme un dieu. Il est appelé à être Dieu. Vous serez comme des dieux. Il est appelé à être dans cette intimité avec Dieu et de vivre cet amour de Dieu. Mais en même temps, je découvre la fragilité de l'homme, la précarité de l'homme. Je découvre qu'il y a dans l'homme une possibilité à chaque instant de révolte. L'homme peut à chaque instant refuser. Il peut à chaque instant se mettre en adversaire de Dieu. Il peut à chaque instant devenir un petit démon ou un gros démon. N'est-ce pas ? À chaque instant, il peut se mettre dans cette attitude d'opposition et de refus. Il y a donc dans l'homme à la fois une capacité unique d'ennoblissement, puisque ça va jusqu'à Dieu. Par la grâce, on est de la race de Dieu. Donc on est de la race de Dieu. Donc il y a un ennoblissement unique. Et en même temps, on comprend cette fragilité de l'homme. Il est capable de refuser cet amour par orgueil. Il est capable d'être complice de Lucifer, du démon. Il est capable de se mettre en opposition vis-à-vis de toute la miséricorde et tout l'amour du Christ. Et se poser comme un adversaire, un antichrist. Il y a dans chaque homme une possibilité d'être un antichrist. Celui qui rejette le Christ et qui rejette Dieu. Alors vous voyez que l'éthique chrétienne prend une dimension unique. L'éthique humaine paraît toute petite à côté. Il y a subitement une espèce d'agrandissement que le philosophe doit regarder. Les philosophes de l'Antiquité regardaient ce qu'étaient les traditions religieuses. Et à partir des traditions religieuses, ils regardaient ce que c'était que l'homme. Le philosophe, au milieu des traditions chrétiennes, au milieu de ce que représente la foi chrétienne, a un devoir de comprendre ce que la révélation apporte de nouveau et montre que l'éthique prend alors cette dimension unique, le combat constant qui est au plus intime de nous-mêmes, le combat à l'extérieur, hein, le combat visible des guerres n'est rien à côté du combat intérieur. Le véritable combat est le combat intérieur. Le combat extérieur, c'est une conséquence. Le véritable combat, il est au plus intime de notre cœur. Et c'est le combat entre l'amour et l'anti-amour.